enfants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Le XVIIIe siècle a été un double titre, le siècle des Lumières, comme il est convenu de l'appeler. D'abord parce qu'il est le siècle de la philosophie des Lumières, mais aussi parce que, et d'une manière certainement aussi importante et aussi profonde, il a été le siècle de l'illuminisme, c'est-à-dire de ces gens qui, souvent, à travers les voies de l'hétérodoxie, recherchaient une illumination intérieure. Comme si, d'une certaine façon, il y avait les lumières matérielles, que l'on commençait d'ailleurs à explorer avec les phénomènes de l'électricité, et puis la lumière intérieure, la lumière spirituelle. Et de ce point de vue-là, l'un des représentants les plus éminents de cette seconde travée du XVIIIe siècle est très certainement le poète anglais William Blake. William Blake qui représente une sorte de phénomène étrange puisque il se veut visionnaire, pour ne pas dire que à beaucoup d'égards il se veut prophétique et que souvent en réalité on s'est demandé si sa production ne relevait pas de la pathologie, pour ne pas dire de la psychopathologie, en un mot, s'il n'était pas un peu fou. Alors, pour essayer d'explorer cette œuvre, et cette œuvre qui a marqué très durablement l'esprit britannique et la relation très étroite que l'on connaît de cet esprit avec tout ce qui est de l'ordre de l'hermétisme ou de la théosophie, nous avons avec nous aujourd'hui Patrick Mento, professeur de littérature anglaise et doyen de la faculté des lettres de Toulouse. Patrick Mento qui, durant de longues années, s'est penché sur l'œuvre de William Blake et a essayé de comprendre précisément quel était son ressort interne, quelle était sa nécessité interne, à la fois dans son rapport à la poésie et dans son rapport à cette illumination qui lui permettait de voir, d'imaginer, d'halluciner. C'est à chacun de conclure, selon son examen, de voir donc des réalités au-delà de notre monde sensible, dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde métaphysique.
Les Anglais l'appellent souvent Mad Blake, ce qui veut dire qu'ils mettent le compte, son imagination sur le compte de la folie finalement. Cependant, il y a tout de même beaucoup d'aspects dans la poésie de William Blake qui le rattachent à des traditions littéraires ou spirituelles, voire philosophiques, qui permettent donc de lui conférer un certain sérieux. Sa vision procède d'une imagination qui se veut spirituelle. C'est-à-dire que ce qui fonde sa revendication du statut de prophète, c'est finalement le fait qu'il a la perception d'un monde spirituel qu'il décrit dans ses poèmes et dans ses illustrations, puisqu'il gravait des illustrations pour illustrer ses poèmes. Il en décrit les combats spirituels entre des entités spirituelles qui sont en fait des projections de ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Par exemple, il dit « Listen to the voice of the bard who past, present and future sees. » Écoutez la voix du barde qui voit le passé, le présent et le futur. Donc il se définit véritablement comme un prophète. Et il reprend en grande partie la Bible, dont il fait une lecture tout à fait personnelle, à travers son imagination poétique. Et l'inspiration dont il se réclame, c'est ce qu'il appelle le génie poétique, poetic genius, qui est de nature à la fois spirituelle, religieuse, métaphysique en tout cas. Et c'est là où se pose, pour certains en tout cas, critique le problème de la folie. Blake déclare par exemple « If the fool would persist in his folly, he would become wise. » Si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. Donc finalement, l'imagination chez Blake renvoie à un problème de vision et à une perspective de subjectivité et de nécessité d'élargissement des sens de la perception pour les ouvrir justement à l'imagination. I have no name, I am but 2 days old, what shall I...
précisément, parce que Rimento, est-ce qu'il ne faut pas se poser très sérieusement, je dirais très rigoureusement en même temps, la question de la folie de Blake, dans la mesure où on a l'impression qu'il atteint, si l'on peut dire, un noyau de la psyché, qui est finalement une représentation de l'inconnu, de l'inconnaissable, de l'abîme premier, pour parler selon la théologie traditionnelle, et que de ce point de vue-là, il touche précisément à cette zone dans laquelle ça peut aussi bien verser du côté de la folie que ça peut aussi bien verser du côté de la mystique. Et on a l'impression que, précisément quand même, sa vision, ses proches parents de l'hallucination, et pourtant ce n'est pas de l'hallucination.
On sent que ce n'est pas l'hallucination parce que il y a un travail poétique clairement mené, il y a une cohérence interne de l'œuvre qui permet par exemple de repérer des échos d'entre poèmes qui sont pourtant séparés de plusieurs années dans leur composition. Il y a des thèmes récurrents, il y a des emplois idiosyncrasiques du langage ou de certaines expressions. Finalement, on est renvoyé à cette expérience première qui se produit dans le fort intérieur du sujet. En France, au XXe siècle, il y a un philosophe qui a de nouveau repris ses réflexions, qui s'appelle Guy Lardreau, qui est auteur d'une étude, je crois, fondamentale, qui s'appelle « Discours philosophique et discours spirituel », et qui essaye d'établir une définition de ce qu'il appelle « l'experimentum mentis », ce qui correspond à ce que David Hume appelait le « feeling of truth », c'est-à-dire le sentiment de vérité intérieure. Et Lardreau montre que finalement, il peut se rattacher, il s'apparente à un phénomène d'illumination. C'est-à-dire que si l'on demande au philosophe d'où lui vient la certitude où il est de se trouver lorsqu'il la rencontre devant une vérité, on peut dans un premier temps considérer qu'elle lui vient par exemple d'un enchaînement logique de causes et d'effets qui lui permet de construire un système métaphysique. Mais, je cite, « il faut bien qu'à la fin des fins, la chaîne entière trouve son origine dans un experimentum mentis dont elle ne rend pas raison, puisque la raison est à partir de lui. » Donc je crois que là, Lardreau met en lumière la similitude de fondement entre les discours du philosophe et les discours du mystique. Cette similitude de fondement révèle le rôle de l'imagination subjective, de ce que David Hume appelait la prédisposition d'esprit ou le sentiment de vérité intérieure. Et Blake, justement, insiste beaucoup là-dessus. Il y a une autre dimension, si vous voulez, qui permet de considérer que ce n'est pas simplement du délire psychotique. C'est le fondement biblique auquel se rattache William Blake. Pour lui, finalement, cette expérience qui se produit dans le fort intérieur du sujet, que ce soit le mystique, le poète qui écrit en fonction de son inspiration, ou que ce soit le lecteur qui se sent une véritable communion lors du moment de lecture, cette expérience est à rattacher à l'esprit de réconfort annoncé par le Christ dans les évangiles. L'esprit de réconfort qui doit venir après la mort du Christ. « Knowledge is not by deduction, but immediate by perception or sense. » Christ addresses himself to the man, not to his reason. C'est-à-dire, le savoir ne vient pas par la déduction, il est immédiat par la perception ou le sens. Le Christ s'adresse à l'homme, avec un H majuscule, non pas à sa raison. Donc, c'est en fonction de ce fondement biblique que Blake vise à établir une communion spirituelle avec son lecteur. Là, il est véritablement demandé au lecteur de se placer dans une optique bien particulière, qui renvoie aussi au concept des idées innées. Innate ideas are in every man, born with him, they are truly himself. Les idées innées sont dans chaque homme, elles naissent avec lui, elles sont véritablement son être même. Sweet joy before thee. puisqu'il s'agit d'atteindre une sorte de communion spirituelle, on est très vite hors d'atteinte du langage.
When in eternity a man converses with man, they enter into each other's bosom, which are universes of delight, in mutual interchange, and first their emanations meet, surrounded by their children. If they embrace and commingle, the human fourfold forms mingle also in thunders of intellect.
Quand dans l'éternité l'homme converse avec l'homme, chacun entre dans le sein de l'autre, qui sont des univers de plaisir, en échange mutuel. Et d'abord, leurs émanations se rencontrent, entourées par leurs enfants, et si elles s'embrassent et se mélangent, les formes humaines quadruples se mélangent aussi en tonnerre de l'intellect. C'est la description d'un langage qui, évidemment, est au-delà des mots. Donc, même pour le poète, le langage est à la fois outil d'expression, c'est son aspect positif, et obstacle. Blake appelle la langue anglaise « English, the rough basement », c'est-à-dire la base rugueuse. Il s'interroge comment pourra-t-il décrire les réalités spirituelles avec sa langue et avec sa main d'argile.
Rapport à ce que vous nous décrivez là, Patrimento, j'ai bien noté évidemment la déclaration de Blake sur laquelle, si le fou était encore plus fou, il deviendrait sage. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas référence à l'épître de saint Paul, c'est-à-dire ce qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse aux yeux des hommes, enfin ce qui est sagesse aux yeux des hommes et folie aux yeux de Dieu, et ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que finalement, être sage consiste dans une bonne folie. Disons d'une certaine manière. Et est-ce que là, ça ne renvoie pas aussi à cet usage du langage, c'est-à-dire que la folie est l'entrée dans l'ordre de quelque chose qui est de l'indicible, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre de Dieu, en fin de compte, et que le langage, précisément dans ce mouvement autocontradictoire, en quelque sorte, manifeste ce qui ne peut pas être dit, ce qui est de l'ordre de l'indicible, et en même temps que ça le manifeste, ça le trahit, ça le gauchit, ça... Je dirais, ça permet de viser la cible en la manquant à tous les coups. Et donc, est-ce qu'on n'est pas pris dans cette sorte de mouvement et qui indique que précisément la folie est une bonne folie? Parce que je dirais, le mauvais fou, lui, il ne se rend pas compte que son langage manque sa cible.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'abord, en ce qui concerne la folie par rapport à la sagesse du monde, si l'on veut, c'est peut-être ce qui explique que Blake, petit artisan qui publie ses œuvres lui-même dans un contexte difficile, il n'a jamais été très riche de son vivant, ni fortement reconnu par ses pairs, même s'il a appartenu à quelques petits cercles d'artistes. Blake est presque en marge de la société du XVIIIe. Et se trouve en tout cas, par bien des aspects, à contre-courant des idées du XVIIIe. Les idées du siècle des Lumières, ce sont les idées du progrès, l'organisation matérielle, la production, la révolution industrielle, le commerce international, le négoce. Ce sont des idées aussi derrière lesquelles Blake commence à dénoncer l'exploitation de l'homme par l'homme. Le fait que dans une économie libérale, l'homme devient, alors il ne dit pas un loup pour l'homme, mais une terreur pour l'homme. Donc il dénonce tous ces défauts, toutes ces tendances. Il le fait cependant sans avoir de revendication de révolutionnaire ou de réformateur. Il le fait d'un point de vue simplement spirituel. Pour constater que les nouvelles valeurs de cette société qui est en plein bouleversement dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle ne correspondent plus à une éthique chrétienne telle que lui, en tout cas, l'a définie. La folie, d'une certaine façon, à cet égard... oblige le poète, ou marque, si vous voulez, marque, voilà, on va dire ceci comme cela, marque la distance entre le poète et la société de son époque. En même temps, elle est entrée dans un domaine divin, elle est possibilité d'avoir accès à des réalités divines, et c'est en quoi aussi, effectivement, elle va
elle-même dénoncer les limites du langage.
I wander through his charted street, near where the chartered Thames does flow.
Il ne faut pas oublier que le langage appartient finalement au monde de la chute. Là, il faut quelques mots d'explication sur la conception de la création du monde selon Blake, qui se situe dans une perspective tout à fait gnostique. C'est-à-dire que pour lui, le monde matériel est né dans le sillage de la chute de Satan. Qui tombe d'une nature spirituelle, et par conséquent la création du monde n'est pas le produit d'un fiat lux positif biblique, c'est au contraire le synonyme d'une chute tragique dans la matérialité, dans l'enfermement, dans les limites. Et le langage appartient à ce monde. Le langage ne permet donc pas effectivement de retranscrire ce qui appartient au domaine des réalités spirituelles. Donc il y a une lutte constante du poète avec la propre matière avec laquelle il s'exprime. Et il y a nécessité, là aussi, pour le lecteur, de, dans quelque sorte, de dépasser le langage, de lire non pas à travers les lignes ou entre les lignes, mais de lire au-delà des mots, de se laisser imprégner. Alors là, il y a tout un fonctionnement poétique qui relève pratiquement de l'hypnotique chez Blake, de se laisser imprégner par des cadences, par des rythmes, par des récurrences de thèmes, de mots, d'images, qui font que petit à petit se constitue un monde imaginaire autour du lecteur. Alors, selon que le lecteur y est ouvert ou pas, il se produira une expérience de lecture, une expérience de communication spirituelle ou pas.
Par rapport à ce thème de l'imaginaire, Patrick Mento, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est absolument central chez Blake, si je le comprends bien tout au moins, est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire la distinction qu'avaient clairement posée les anciens alchimistes quand ils parlaient de imagination vera non fantastica, l'imagination vraie non fantastique, c'est-à-dire non maîtresse d'erreur, non maîtresse de fausseté, non maîtresse d'illusion. C'est-à-dire, en fin de compte, faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire d'un côté, l'imagination de l'autre. Parce que si je comprends bien, l'imagination chez Blake est une capacité de pénétration spirituelle, et je dirais d'une certaine manière est assez proche de ce que dans d'autres traditions on appelle l'imagination créatrice. C'est-à-dire que ça crée son propre monde symbolique avec sa réalité, et où donc on n'est pas du tout dans une sorte de fausse démarque de la réalité, mais beaucoup plus dans l'exploration d'un autre mode, d'un autre type de réalité.
Absolument. Blake d'ailleurs écrit toujours imagination avec un I majuscule, pour la distinguer de l'imagination avec un petit i, qui serait par exemple l'imagination telle que la conçoit un philosophe comme David Hume, qui prend en compte le rôle de l'imagination par exemple dans les phénomènes d'association d'idées, qu'il a beaucoup étudié. Chez Blake, l'imagination est à la fois effectivement une capacité de perception d'une vision divine ou spirituelle, tout au moins, et en même temps, elle est réalité. Et là, on peut établir un autre lien avec une autre tradition, qui est la tradition de Platon. Car il y a des définitions du monde de l'imagination qui sont tout à fait évocatrices de la philosophie platonicienne. This world of imagination is the world of eternity. Ce monde de l'imagination est le monde de l'éternité. It is the divine bosom into which we shall all go after the death of the vegetated body. Il est le sein divin dans lequel nous irons tous après la mort du corps végétal. This world of imagination is infinite and eternal, whereas the world of generation or vegetation is finite and temporal. Ce monde de l'imagination est infini et éternel, tandis que le monde de la génération ou de la végétation est fini et temporel. There exist in that eternal world the permanent realities of everything we see reflected in this vegetable glass of nature. Il existe dans ce monde éternel toutes les réalités permanentes des choses que nous voyons réfléchies dans le miroir végétal de la nature. On a là une définition qui pourrait pratiquement s'appliquer aux idées formes de Platon. Le monde naturel, le monde sensible, étant constitué de copies dégradées des idées formes. Par cet aspect-là, l'imagination revêt le statut d'une réalité. D'une réalité qui pour Blake, est première et qui va même finir par supplanter la réalité du monde matériel. Et toute la démarche à laquelle il invite son lecteur, à travers une progression, à travers des états, des étapes, jusqu'à ce qu'il appelle un jugement dernier, qui se produit non pas à la fin des temps, comme on l'attend dans l'eschatologie chrétienne, mais qui peut se produire dans la vie de tout individu, à n'importe quel moment, dès lors que l'individu rejette les erreurs qui sont matérialisées devant lui. Au bout de cette progression, on va arriver finalement dans un domaine qui se trouve au-delà du monde matériel. L'erreur ou la création sera brûlée, et alors, et pas avant, la vérité ou l'éternité apparaîtra. Elle est brûlée, ou elles sont brûlées, cette erreur et cette création, dès lors que l'homme cesse de les regarder. Dans votre sein, vous portez votre ciel et votre terre et tout ce que vous regardez. Bien que ces choses apparaissent à l'extérieur, elles sont en vous, dans votre imagination, dont ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. The imagination is not a state, it is the human existence itself. L'imagination n'est pas un état ou une étape dans une progression, elle est l'existence humaine elle-même.
Dans cette définition de l'imagination que vous nous donnez, Patrick Manto, je pense qu'on retrouve en même temps beaucoup, puisque vous faites allusion à Platon, beaucoup des thèmes du platonisme de Florence, particulièrement de Marcel Fissa, etc., justement sur l'imagination en tant qu'organe de perception de l'âme, si on peut dire, et qu'on va retrouver aussi, c'est, je pense, une tradition anglaise dans le platonisme anglais de Cambridge. Mais justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'en même temps, Blake ne resynthétise pas, soit il les a reçus, soit il les réinvente tout simplement lui-même, mais est-ce qu'il ne resynthétise pas tout un certain nombre de thèmes qui sont ceux, je dirais, du grand hermétisme traditionnel? Parce que lorsque vous parlez, on est frappé de voir comme, par exemple, on a beaucoup de réminiscences, enfin beaucoup d'échos, disons, à des thèmes qui sont ceux, par exemple, entre autres, de Jacob Boehm. Oui. Alors, on sait que Jacob Boehm, il a eu beaucoup de disciples ensuite en Angleterre, il y a eu un boehmisme anglais, si on peut dire. Oui. Et donc, on se demande, est-ce que Blake, quand même, n'en est pas redevable en partie?
Alors, c'est toute la question. Ce qui est certain, c'est que les œuvres de Boehm ont été traduites en anglais vers le milieu du XVIIIe siècle. Donc il est probable que Blake a pu avoir accès en tout cas à cette traduction. Il cite d'ailleurs Jacob Boehm dans sa poésie, donc visiblement il connaissait cet auteur. Et les similarités et les similitudes de vision sont frappantes, ne serait-ce que dans la conception de ce monde matériel qui, comme je le disais tout à l'heure, est créé dans le sillage d'une chute et qui est permis par Dieu pour permettre à l'homme, justement, de ne pas tomber dans une chute sans fin, comme le fait Satan. Et puis, vous parliez tout à l'heure de tradition hermétique, et effectivement, lorsqu'on en va plus loin, on trouve, par exemple, ce qui relève finalement d'un archétype, c'est l'archétype de l'unus mundus. Blake décrit un monde spirituel où figurent tous les événements de la vie du monde matériel. Et il le décrit en des termes qui disent que chaque époque renouvelle ou régénère ses pouvoirs à partir de ses œuvres spirituelles. All things acted on earth are seen in the bright sculptures of Los's halls, and every age renews its powers from these works. Toutes les choses actées sur la terre, toutes les choses qui se produisent sur la terre, se voient dans les sculptures brillantes des grandes salles de Los. On est dans un domaine spirituel qu'il décrit. Los est un des personnages spirituels de la mythologie blakienne. Et, dit-il, chaque époque
régénère ses forces dans ses œuvres. Avec chaque histoire pathétique possible qui peut arriver, chaque histoire de haine ou d'amour égaré, et chaque chagrin ou chaque détresse est ici sculptée. Chaque affinité de parents, de mariage et d'amitié sont ici, forgées avec, dans toutes leurs combinaisons, avec un art admirable. Tout ce qui peut arriver à l'homme dans son pèlerinage de 70 ans.
On a l'impression qu'on est très proche, par exemple, de descriptions comme celle de la Kabbale, avec le monde des Séphirotes.
Oui.
Ce monde des Séphirotes, qui sont une sorte d'émanation divine et qui sont un monde du spirituel déjà corporalisé, encore ça ne soit pas complètement, ce n'est pas notre matière à nous, et dans lequel on sait très bien que, selon la Kabbale, tout ce qui arrive dans l'histoire humaine est en même temps un reflet, et je dirais concaténé extrêmement fortement avec ce qui se passe dans le monde des Séphirotes, même si, par ailleurs, il y a une différence entre les deux. Et on a l'impression qu'on a une pensée extrêmement parallèle.
Tout à fait. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que Blake avait connaissance de ses sources? Est-ce qu'il les a travaillées? Ou est-ce qu'il redécouvre par sa vision des réalités qui seraient archétypales? C'est toute la question. Il ne fait pas allusion à la Kabbale hein, dans sa poésie. Donc, difficile de dire, ni dans sa poésie, ni dans sa correspondance, difficile de dire s'il la connaissait. Bon, il est probable qu'il avait un certain intérêt pour toutes ces traditions spirituelles et religieuses. Mais en tout cas, il demeure que certainement, on trouve là l'idée d'un monde uni dans lequel le non-matériel et le matériel sont en étroite relation, dans lequel les événements qui pour nous se déroulent selon un déroulement temporel peuvent être vus de façon unifiée, dans lequel ce qui est multiple peut être vu comme l'un. Par exemple, à un moment, Blake parle des états que l'homme peut être amené à traverser à travers une progression spirituelle inscrite dans le temps. Ces états ou ces étapes variées, je les ai vues dans mon imagination. À une certaine distance, elles apparaissent comme un homme. Mais, si l'on s'approche, elles apparaissent comme des multitudes de nations. C'est-à-dire qu'en fait, ceci est à rattacher à la conception de Blake sur ce qui constitue le savoir humain, sur tous les discours explicatifs possibles, à fonction mythologisante, qu'il soit religieux, philosophique ou scientifique. Pour Blake, tous ces discours manifestent des étapes d'une progression, ce qu'il appelle les « states », d'une progression continue vers un aboutissement absolu et inconnu. C'est là, je crois, un apport essentiel de l'imagination, selon William Blake, c'est que, à travers la vision mystique, est par conséquent perçue l'unité divine qui se manifeste à travers la diversité des religions terrestres, lesquelles ne sont que des étapes nécessaires. Et à propos des multitudes de nations dont nous parlions tout à l'heure, il ajoute « I have seen, when at a distance, multitudes of men in harmony appear like a single infant, sometimes in the arms of a female. J'ai vu, à une certaine distance, des multitudes d'hommes en harmonie apparaître comme un petit enfant, parfois dans les bras d'une femme.
Lorsque vous parliez de Nunus Mundus, Patrick Mento, Nunus Mundus, on sait très bien qu'il a été théorisé d'abord par Scott Eigen,
oui.
C'est-à-dire comme le mode d'apparition d'un Dieu sur lequel aucun discours n'était possible ni aucune représentation ne pouvait être bâtie, puisque ce Dieu, comme il le dit, c'est la natura non creata non creans, oui. Ni créée ni créante, oui. C'est-à-dire en fin de compte Dieu retiré dans son abîme en quelque sorte, oui. Et que lorsqu'on parle de Jacob Böhm, lorsqu'on parle de la Kabbale, on voit très bien que derrière l'horizon c'est précisément c'est l'ungrund de Jacob Böhm, le sans fond, et que derrière la Kabbale c'est l'Ein Sof, c'est-à-dire l'illimité, l'infini, celui devant lequel tout discours cesse. Et donc on a l'impression qu'au cœur, ne fût-ce que même que par les réseaux de correspondance que vous tissez, au cœur de l'œuvre de Blake, il y a précisément cet inconnaissable premier, et voilà. Que nous ne bâtissons notre connaissance que à partir de l'inconnu.
Oui et non, en fait. Excusez-moi. C'est-à-dire que... certainement, il y a dans le concept d'Ungrund chez Jacob Böhm, ou derrière ce concept, l'idée d'un Dieu totalement inaccessible à l'entendement, inaccessible au langage, et peut-être même à l'imagination. Chez Blake, ce concept de Dieu est peut-être présent, mais de façon non explicite. C'est-à-dire que précisément, peut-être parce qu'il est inaccessible, Dieu n'y fait pas, Blake n'y fait pas référence. Le Dieu, en fait, chez Blake, c'est finalement la façon de s'en rapprocher le plus, c'est de considérer Albion, ce qu'il appelle l'Albion, l'homme universel, comme une fraternité universelle. C'est-à-dire que ce qui fait l'unité de ces multitudes d'hommes qui constituent l'homme universel, c'est précisément l'amour au sens chrétien du terme, l'amour hérité de la tradition chrétienne. Blake dit que Dieu existe à travers l'homme et à travers les êtres qui existent. C'est-à-dire que on ne peut probablement rien dire de Dieu, on ne peut que percevoir ce à travers quoi Dieu se manifeste. God only acts and is in existing beings or men. Dieu n'agit et n'est que à travers les êtres existants ou les hommes. Eternity is in love with the productions of time. L'éternité est dans une relation d'amour avec les productions du temps. Eternity exists and all things in eternity, independent of creation, which was an act of mercy. L'éternité existe, ainsi que toutes les choses dans l'éternité, indépendamment de la création, qui était un acte, qui fut un acte de merci, de pitié. Hein, c'est la vision du monde matériel créé dans le sillage de la chute de Satan avec la permission de Dieu, caractéristique, comme on le disait tout à l'heure, de Jacob Böhm. Donc, de Dieu lui-même, finalement, on ne dit rien, mais ça n'empêche pas de fixer cet objectif de réunification de l'humanité à travers l'esprit d'amour du Christ.
Mais justement, à travers ce que vous dites, je voudrais revenir pour vraiment y voir clair. Est-ce que en réalité, je dirais, est-ce que la construction de Blake ne suppose pas implicitement ce Dieu inconnu, mais au sens alors où Maître Eckhart l'explique, qui est peut-être celui qui allait le plus loin là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a la Deitas, le Dieu inconnu d'une part, il y a le Dieu révélé de l'autre, oui. Et qui est d'ailleurs pour Eckhart évidemment la Trinité chrétienne. Oui. Et non pas d'ailleurs comme on l'entend souvent, comme la Deitas d'une part et puis le Dieu révélé qui ne serait qu'une manifestation. La Deitas est en fait au cœur même du Dieu révélé, et elle est en abîme dans la Trinité. Ce qui veut dire en même temps que, évidemment, le Dieu révélé, est allant jusqu'au bout de sa révélation, entraîne, je dirais, le phénomène de l'incarnation, oui. Et par retour, la déification de l'homme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement centré sur cet abîme de Dieu, mais il y a ce mouvement de la naissance de Dieu dans l'homme qui entraîne la naissance de l'homme en Dieu. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que c'est extrêmement...
Ah oui, c'est tout à fait l'optique de William Blake. Hein. Dieu est présent en l'homme et l'homme acquiert un statut divin, véritablement. Hein. Thy own humanity learn to adore, il dit, c'est-à-dire apprend à adorer ta propre humanité. Hein. C'est en l'homme que se trouve Dieu. Et il y a une véritable déification, effectivement, de l'homme à travers cette thématique. Mais ce Dieu demeure inaccessible au langage, et il est tout à fait caractéristique, par exemple, qu'un grand poème comme Vala or the Four Zoas, qui est le grand poème qui décrit la chute et la création du monde matériel, ce grand poème commence précisément à l'instant où Albion, l'homme universel, subit un éclatement où ses émanations se séparent en quatre d'abord, puis en multiples autres émanations ensuite. Les premières paroles sont « Lost, lost, lost are my emanations ». Perdu, perdu, perdu sont mes émanations. Et c'est le début du poème. C'est-à-dire que le langage appartient déjà à ce monde de la chute et donc ne peut pas rendre compte de ce qui précède ce monde de la chute.
Puisque, avec William Blake, nous étions, à l'évidence, dans l'ordre de la vision et dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la théosophie ou la gnose, je voudrais attirer l'attention sur la reparution d'un livre devenu extrêmement rare, de Lotus de Paigny, La magie et le mystère de la femme, aux éditions Arma Artis. Lotus de Paigny, de son vrai nom Lotus Peralté, a participé au premier mouvement, au moins, de l'aventure de l'anthroposophie avec Rudolf Steiner. Et puis, très vite, elle s'est tournée vers l'ethnologie, l'ethnographie, en même temps qu'elle s'adonnait à l'hermétisme et à la recherche spirituelle. Et on peut dire qu'elle a marqué à la fois tout un certain nombre de générations hermétistes, et jusqu'à sa mort en 1953, qu'elle a été l'une de celles que André Breton, par exemple, à l'intérieur du mouvement surréaliste, à laquelle André Breton a rendu un très vibrant hommage, parce qu'il trouvait qu'il y avait là toute une source d'inspiration et de réflexion. Et à travers une méditation extraordinairement personnelle, précisément sur cette magie et ce mystère de la femme et au-delà de la femme, du féminin, Lotus de Paigny nous réintroduit parmi les thèmes les plus profonds de la grande travée, de la grande coulée historique de l'hermétisme et de son rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le féminin spirituel, en même temps que elle fait la jonction, en quelque sorte, avec les mouvements modernes comme ceux de la théosophie ou de l'anthroposophie. Comme un objet sacré, la Vierge restait silencieuse, intangible, dans cette atmosphère irrespirable pour nous, et dans cette obscurité pleine de sa luminosité mystérieuse. La caverne en était remplie, son âme flamboyait et ruisselait. Et puisque nous nous trouvons dans cette région de la recherche spirituelle, mais peut-on dire de la recherche spirituelle indépendante, en dehors de tout cadre religieux défini, en dehors même de toute dogmatique, il faut signaler et saluer en même temps la republication par les éditions Gallimard dans leur collection Poésie de l'ensemble de l'œuvre des poètes du Grand Jeu sous la direction de Zénobianu. Les poètes du Grand Jeu, nous en avons souvent entendu parler, au moins de René Daumal, de Roger Gilbert Lecomte ou de Georges Ribemont-Dessaigne. Mais ici, c'est l'ensemble de ces poètes qui nous est présenté avec des poètes certainement beaucoup moins connus comme Maurice Henry, Moni Dupouli ou Pierre Audard. Les poètes du Grand Jeu, de quoi s'agissait-il ? sinon de ces presque adolescents, ou en fait tout juste dans leur âge de première découverte de ce qu'était l'état adulte en quelque sorte, de ces poètes qui, dans les années 1930, se sont livrés à une recherche intérieure extraordinairement profonde, qui consistait en quelque sorte à réintégrer l'éternité dans leur vie ici-bas. De ce point de vue, ils ont souvent côtoyé le surréalisme, alors même qu'on ne peut pourtant pas les réduire à ce mouvement, tellement était grande leur liberté, tellement en même temps étaient grands les risques qu'ils ont pris quant à leur santé mentale, ou disons leur santé tout court, c'est-à-dire leur inscription dans la vie et la façon dont, pour reprendre l'expression de Georges Bataille en la modifiant quelque peu, ils ont jeté la mort dans la vie et en même temps la vie dans la mort. On récolte l'amour que l'on sème. Tiendrai-je entre mes bras une gerbe brûlante d'étoiles? Je crains que les femmes ne se détournent de mon geste d'accueil. Je leur ai demandé ce qu'elles n'avaient pas. Enfin, dans un registre tout à fait différent, pour ne pas dire apparemment opposé, mais peut-être l'est-il beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser à un niveau beaucoup plus profond, je voudrais attirer l'attention sur la publication par les éditions Harfeuillennes d'une petite voix toute nouvelle de Thérèse de Lisieux. De quoi s'agit-il au juste, si ce n'est de lettres de Thérèse de Lisieux présentées et commentées par Dominique Sterckx. Et c'est comme une sorte de réponse, en quelque sorte, à la fois à ce que nous disait Lotus de Paigny, ou à ce que nous disent les poètes du grand jeu, une sorte de réponse à l'intérieur de l'humilité, au moment où Thérèse de Lisieux se demande si, dans son ascèse intérieure, dans son désir, dans son amour pour le Christ, elle ne frôle pas la folie, et où, de ce point de vue-là, elle explore la voie de ce que la mystique du XVIIe siècle appelait l'abandonnement de tout soi-même et qui l'amène à la plus complète déréliction et en même temps à la plus grande gloire. Alors, selon sa foi, on jugera qu'on est dans l'ordre de l'aliénation à soi-même, ou au contraire de la plus grande sainteté, mais on voit très bien en même temps comment il y a là quelque chose qui engage la totalité de l'être et qui, au-delà des torsions de l'âme dues sans aucun doute à l'enfance ou au cadre familial ou au cadre social, il y a quelque chose d'une aventure du cœur de l'esprit, quelle que soit notre croyance par ailleurs. Mes immenses désirs, ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en est ainsi, Jésus, éclaire-moi. Tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître, car ces désirs sont pour moi le plus grand des martyrs.
Les livres aujourd'hui. La magie et le mystère de la femme, de Lotus de Paigny, aux éditions Ama Artis. Les poètes du grand jeu, sous la direction de Zeno Bianu, aux éditions Gallimard, dans la collection Poésie. Et Une petite voix toute nouvelle, de Thérèse de Lisieux, aux éditions Harfeuillennes. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Patrick Ménetot. Mixage, Annick Brien, Philippe Thibault. Réalisation, Isabelle Huel.